l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi en direct. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés David Torchala. Bonjour David.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Voilà, après quelques jours de repos, nous sommes de retour en pleine forme sous le soleil avec dans un instant l'actualité du sanctuaire de Lourdes. De quoi on va parler David?
On va parler des apparitions parce que là nous sommes vraiment dans ce moment où on se remémore ces apparitions. Elles se sont passées en plus pendant le carême.
Et puis notre actualité dans les prochains jours, c'est ce rassemblement qui s'intitule Exode.
Exode, des milliers de jeunes de la province de Toulouse vont prendre la route ce week-end de Lourdes. On les attend, on est prêts à les accueillir.
Et la semaine dernière, c'était le Secours catholique qui a rassemblé ses aumôniers et équipes d'animation spirituelle à la cité Saint-Pierre de Lourdes pour échanger sur la dimension spirituelle de l'association. C'était les Speed Days. Plus de 400 participants venant de toute la France se sont posé cette question. Comment on vit la dimension spirituelle au Secours catholique? Et sur place, il y avait Laurence Houdemont pour écouter son reportage dans quelques minutes. Et puis, il y a quelques semaines, quelques mois, Antonia Salzano était de passage à Lourdes. Carlo Acutis, son fils, a été canonisé le 7 septembre 2025. Elle a accepté de répondre aux questions de Mathias Thérien. On pourra l'écouter aux alentours de 12h30. Voilà pour les grandes lignes de cette émission.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Radio Présence dans le Lauragais. 97.9.
Direction le sanctuaire de Lourdes et l'actualité du sanctuaire de Lourdes avec David Torchala. Rebonjour David.
Rebonjour Gilles.
Vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes. Dans un instant, on parlera de ce rassemblement Exode, mais nous sommes au mois de mars et précisément, nous sommes le 2 mars en plein cœur de la quinzaine des apparitions à Lourdes.
Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Vous voyez, hier, le 1er mars, nous remémorions à la grotte cette première guérison miraculeuse. C'était au cours de la 12e apparition. Voilà, plus de 1500 personnes étaient rassemblées pour la première fois. Il y avait même un prêtre autour de Bernadette dans cette grotte de Massabielle. Et dans la nuit, Catherine Latapie, une habitante du village de Loubajac, tout proche de Lourdes, s'est rendue à la grotte. Elle a trempé son bras qui était déboîté dans l'eau de la source, et son bras et sa main ont retrouvé toute leur souplesse. Et puis l'histoire ne le dit pas toujours, mais elle était également enceinte et elle a pu aussi accoucher d'un enfant. C'était le premier miracle, celui de Catherine Latapie. Et aujourd'hui, on se remémore depuis la grotte des apparitions, cette 13e apparition très, très, très importante, puisqu'à cette époque, la foule grossit de plus en plus. La dame demande à Bernadette, cette phrase elle est longue, mais elle est très importante et très fondatrice, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Alors Bernadette, elle en parle tout de suite à l'abbé Peyramal. Ben oui, elle remonte la rue de Lourdes pour aller voir le curé de l'époque. Et celui-ci, il ne veut savoir qu'une seule chose, c'est le nom de la dame. Et il exige en plus d'en avoir une preuve et voire même fleurir en plein hiver le rosier, l'églantier de la grotte. Alors bien sûr, on le sait, la chapelle, elle l'obtiendra, Bernadette. Même, elle disait même au père Peyramal, même une toute petite. Bon, on sait qu'elle va être particulièrement grande, au point d'avoir aujourd'hui 3 basiliques dans un même sanctuaire, ce qui est assez unique, un sanctuaire de plus de 50 hectares. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on se remémore à la grotte ce message aux prêtres, très important, hein, aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession. Alors, en procession, évidemment, elles auront lieu encore cette année, en 2026, à partir de la fête des rameaux et 2 fois par jour, la procession eucharistique, la procession mariale. Mais il faut comprendre aussi que dans le patois local, ma procession, ça veut dire pèlerinage. Il n'y a pas véritablement de différence entre pèlerinage et procession dans notre langue régionale du Bigourdan. Et donc voilà, qu'on vienne ici en pèlerinage, qu'on vienne ici en procession. Vous voyez, demain et jeudi, hein, il y a encore 2 autres apparitions. Hein, donc, évidemment, je vous replonge en 1858. Mais demain, 3 mars, ça sera la 14e apparition. Et là, dès 7h le matin, en présence cette fois-ci de 3000 personnes, hein, les foules sont de plus en plus nombreuses à se rendre à la grotte. Bernadette y va, mais la vision n'apparaît pas. Alors voilà, et donc il a fallu attendre plutôt le soir pour revoir la dame et qui va lui offrir un large sourire. Et oui, parce que la Vierge Marie n'a pas adressé systématiquement dans les 18 apparitions un message. Ça sera encore le cas le lendemain, le jeudi 4 personnes. Jeudi 4 mars, 8000 personnes seront là ce jour-là. Alors voilà, c'est pas seulement une histoire, les apparitions, c'est vraiment aussi un message pour aujourd'hui. Et alors en plus, ces apparitions ont eu lieu en 1858 pendant le carême, exactement sur ce que l'on vit cette fois-ci. Donc voilà encore un clin d'œil du ciel. Voilà, le plan de Dieu était encore une fois magnifique sur cette terre lourdaise. Donc nous avons plaisir, si vous le suivez le chapelet, vous l'entendrez encore cet après-midi, où on évoque en tout cas chacune de ces apparitions pour ces dates anniversaires.
Et pour ceux qui veulent connaître le récit des apparitions, il y a aussi un podcast qui a été enregistré par le sanctuaire de Lourdes, le récit avec le père Rossigny, à écouter sur toutes les plateformes de podcast.
Ah oui, Jean-Marcel Rossigny, un capucin, ouais. Un chapelain du sanctuaire qui a eu 2 voix d'orateur, c'est magnifique. Il faut aller sur le site du sanctuaire ou sur les applications mobiles pour les écouter, évidemment.
Voilà. Dans le reste de l'actualité du sanctuaire de Lourdes, il y a un gros rassemblement qui est attendu d'ici la fin de la semaine. Ce rassemblement s'appelle Exode. Plus d'un millier de jeunes sont attendus.
Oui, plus de 1000 jeunes entre 18 et 30 ans. Hein, donc c'est plutôt des étudiants, des jeunes pros qui vont se retrouver au sanctuaire pour vivre un véritable passage spirituel. C'est comme ça qu'il l'explique. Voilà, avec Exode, évidemment, un mot biblique qui évoque la traversée, le désert, la soif, et avec à la fin la promesse d'une terre nouvelle. Donc le thème cette année résonnera comme une prière. Hein, mon âme a soif de toi. Pendant 3 jours, les jeunes vont vivre des temps forts, évidemment. On peut l'imaginer, ils sont à milliers avec des messes, des veillées de louanges, mais surtout des grandes conférences. Ça, c'est, je crois, la particularité de cette rencontre Exode. Hein. Ce sera la 3e édition que recevra le sanctuaire avec beaucoup, beaucoup de joie. Alors, parmi les intervenants, il y a une figure qui est bien connue des réseaux sociaux. Il y en a même d'ailleurs pas mal. Il s'agit de Victor Dubois de Montréno. Alors, on connaît peu son nom, mais on connaît surtout le cateau de service, parce que c'est un jeune youtubeur, voilà, engagé dans l'évangélisation numérique, qui rejoint des milliers de jeunes à travers ses vidéos qui sont simples, qui sont joyeuses, voilà. Et donc il sera là, le cateau de service. Il y aura aussi comme autre intervenant le père Gaspard Craplet. C'est un prêtre de la société de Saint-Jean-Marie de Vianney. C'est un ancien ingénieur et officier de marine de réserve. Il a pour devise la sainteté pour les sommets. Et parce qu'il est vraiment passionné de montagne, on voit beaucoup, beaucoup de vidéos de lui sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, TikTok, sur Instagram, etc. Où voilà, il est très très présent. Il répond aux questions des jeunes qui l'accompagnent souvent, voilà, dans des camps, à travers l'effort physique, la vie spirituelle. Voilà comment tout cela se conjugue. C'est très intéressant. Il y aura aussi un autre couple qui est assez connu. C'est Sabrina et Steven Gunnell. Ils viendront apporter leur témoignage. Ils sont engagés, eux, dans la création cinématographique, hein, vraiment au service de la foi. Et donc, ils ont notamment réalisé ce film Sacré-Cœur qui voilà. A été dans toutes les salles de cinéma. Alors, on sait, lui, Steven Gunnell, il a eu un passé de boys band et aujourd'hui, voilà, reconverti. C'est très étonnant et c'est formidable. Je trouve que les jeunes, en tout cas, choisissent des intervenants comme eux. Alors, évidemment, il y en a plein d'autres des intervenants. On a, par exemple, il y a Marie-Caroline Schur, qu'on connaît bien à Lourdes, qui est handicapée, en fauteuil, qui a un témoignage magnifique. Il y aura également Arnaud Boutéon, on sait aussi son engagement voilà, auprès des chevaliers de Colomb. Et puis, il y aura aussi nos évêques. Hein, on aura Monseigneur de Quérimel, l'archevêque de Toulouse. Il y aura Monseigneur Mika, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. Monseigneur Hayé aussi pour Bayonne. Monseigneur Balsa. Et puis plein d'autres rencontres avec Samuel Pruvot, des journalistes. Il y aura même Monsieur Valentin aussi pour la communication de la conférence des évêques de France. Voilà, donc un grand moment, une session exode. C'est un peu un carrefour, on pourrait se dire, hein, entre les réseaux sociaux, la montagne, le cinéma, et puis surtout la joie, la convivialité, et de se dire qu'on n'est pas tout seul quand on est étudiant et jeune pro. Hein, voilà, on peut s'aider, s'encourager mutuellement dans la foi. Donc, si pour ceux qui habitent près de Lourdes, si vous entendez un peu de musique et un peu de tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est les milliers de jeunes d'Exode qui seront là à Lourdes ce week-end.
Voilà, et c'est un avant-goût de la saison des pèlerinages, cette saison qui se prépare et qui va démarrer dans quelques semaines maintenant. Hein.
Bah oui, même dans un mois, on peut le dire, hein, puisque Pâques voilà, tombe tout début avril cette année, donc on ouvrira pour les rameaux, enfin on ouvrira, on est toujours ouvert, hein, mais enfin on changera les programmes des célébrations puisque viendront s'étoffer avec nous tous les saisonniers, les bénévoles, les hospitaliers qui vont venir voilà, renforcer les rangs pour accueillir ces millions de pèlerins qui se pressent chaque année à Lourdes.
Voilà pour une partie de l'actualité du sanctuaire de Lourdes. Toute cette actualité, on peut la suivre évidemment sur le site internet, également sur les réseaux sociaux qui sont alimentés régulièrement par vos équipes.
Ben oui, allez-y. Et puis alors, il faut cliquer, il faut mettre des j'aime. Mais oui, c'est pas ridicule. Il faut mettre des j'aime, il faut se dire qu'on s'aime. Et voilà, et vous rejoindrez. Il y a plus d'1 300 000 abonnés sur la page Facebook, bientôt 800 000 sur YouTube. C'est fou, cette attraction. Mais en même temps, voilà, c'est une manière aussi pour tous ceux qui sont loin de Lourdes de pouvoir s'associer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est quand même ce que les réseaux sociaux nous permettent de faire aujourd'hui. Oui, c'est par écran interposé, mais en tout cas, la prière, ça c'est sûr, elle est commune à tous.
Un grand merci David Torchala. Voilà, je rappelle que vous êtes le responsable de la communication, directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes. Excellente semaine à Lourdes et on se dit à très vite.
À très vite, merci Gilles, merci à tous.
Présence.
See the west wind move like a lover's soul. senza quelle dalle d'oro. I never made promises like it, but there have been some that I've broken. But I swear in the days you left, we walk in fields of gold. Summer days among the fields of barley. Vestiti de luci mentre usò le ciocche mezzo a quelle dalle d'oro. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley.
Le duo Imbrini et Sting à l'instant avec Terra d'eau assure dans les prochaines minutes l'émission de Mathias Terrier avec deux passages à Lourdes. Et puis la semaine dernière, le Secours catholique a rassemblé ses aumôniers et équipes d'animation spirituelle à la cité Saint-Pierre de Lourdes pour échanger sur la dimension spirituelle de l'association. 400 participants venant de toute la France se sont posés cette question: comment on vit la dimension spirituelle au Secours catholique autour de 70 ateliers. Dans un instant, on va écouter le reportage de Laurent Soudemont qui était sur place. Elle a notamment interrogé Benoît Arnault. C'est à suivre sur Radio Présence.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio, www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Bonjour Benoît Arnault.
Bonjour.
Alors nous nous trouvons actuellement dans le parc de la cité Saint-Pierre à Lourdes sous un magnifique soleil. Est-ce que vous pouvez nous dire, Benoît Arnault, qu'est-ce qu'il est en train de se passer?
Alors depuis quelques jours, là on est au dernier jour d'un grand rassemblement pour le Secours catholique au niveau national qui se nomme les Speed Days. Ce sont les journées sur la vie spirituelle au Secours catholique. Et nous avons 400 participants en comptant les bénévoles de la cité Saint-Pierre, les 400 participants venant de toute la France, les Outre-mer y compris, des partenaires, des invités, et puis la Caritas internationale aussi qui est présente avec nous et représentée par un délégué international du Liban. On est là pendant 3 jours, donc depuis lundi, les gens sont arrivés, mardi, mercredi et jeudi, aujourd'hui on est jeudi, et on vit depuis 3 jours, donc... qu'est-ce que veut dire la dimension spirituelle au Secours catholique? Comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce qu'on se forme pour permettre, dans notre réseau Secours catholique, à vivre cette dimension spirituelle?
Voilà, c'est une occasion pour vous tous de mettre en commun vos idées et puis de comprendre un petit peu ce que vivent les autres personnes du Secours catholique.
Oui, alors c'est surtout en fait une façon de former notre réseau. De se co-former, puisque il y a 70 ateliers qui sont proposés par l'ensemble du réseau. Ça va de partager la parole de Dieu à la doctrine sociale de l'Église, à vivre la vie spirituelle avec des migrants, faire des fleurs en papier, le yoga du rire, la prière intérieure, l'écoute. Voilà, plein de petites formations qui ont lieu sur les équipes d'animation spirituelle aussi, puisque des délégations ont chacune une équipe d'animation spirituelle qui est là pour irriguer, coordonner la vie spirituelle dans une délégation. Sur les marcheurs d'espérance, ce sont dans des délégations, il y a des personnes avec et à partir des personnes en précarité qui vont vivre un voyage bout par bout, comme un pèlerinage de Saint-Jacques par exemple, mais ils organisent, ils vivent et ils relisent tous ensemble ce voyage. Donc, on essaie de ce qu'on appelle capitaliser toute cette expérience-là, en faire des fiches d'animation, en faire des fiches d'objectifs ou autres, et puis pour permettre à tout notre réseau de pouvoir en bénéficier. Ah tiens, j'ai une idée de faire ceci ou de faire cela autour de la vie spirituelle, mais peut-être que dans notre intranet, par exemple, ou en appelant telle ou telle délégation que j'ai rencontrée pendant les Speed Days, je vais avoir des idées. Peut-être qu'en se retrouvant en quelques-uns, on va pouvoir monter un projet commun.
Ça fait 3 jours que les Speed Days ont commencé. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui?
Ces 3 jours, en fait, on les a basés sur... on a une image au Secours catholique pour dire ce qu'est la dimension spirituelle. Si vous venez à la Cité Saint-Pierre, à la bergerie Sainte-Bernadette, vous asseyez sur un... Alors, c'est très connu dans les Pyrénées, hein, mais c'est un tabouret à 3 pieds. Un tabouret à 3 pieds, c'est le plus stable. Et les 3 pieds sont les 3 pieds de notre dimension spirituelle. Donc, notre dimension spirituelle, elle est stable à partir de 3 éléments. 1, c'est si on part avec et à partir des plus pauvres. Pas pour les pauvres, pas avec les pauvres, mais avec et à partir des plus pauvres. Le 2e pied, c'est notre ancrage ecclésial, c'est le fait que nous sommes service d'église. Et le 3e pied, c'est la pluralité religieuse, c'est l'engagement de tous les acteurs au Secours catholique, musulmans, chrétiens, agnostiques, tous ceux qui sont engagés au Secours catholique, c'est notre richesse. Donc ces 3 pieds-là, voilà, 3 pieds, 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Et chaque jour, on regarde un peu l'ensemble, on a des grands temps de plénière, et puis on a aussi ces temps de formation, et puis ces temps entre pairs, entre groupes, voilà, entre les, et c'est le rassemblement aussi de tous les aumôniers du Secours catholique. Donc on a 60 aumôniers qui sont présents ici, qui ont des temps particuliers ensemble. Qu'est-ce qu'on en ressort? Je dirais qu'on en ressort les gens sont assez heureux de vivre ce temps-là. Ça répond aux objectifs pour lesquels ils sont venus, c'est-à-dire se former et faire unité, avoir un sentiment d'appartenance aussi, redonner du souffle aussi à notre réseau sur cette question de la vie spirituelle. Alors redonner, c'est pas forcément, mais c'est accompagner le souffle qui est en train de renaître aussi. On trouve qu'il y a ce souffle-là qui apparaît depuis quelques années là, et en fait, c'est de l'alimenter et lui donner, comme pour le feu de cheminée, pour le foyer, on redonne un peu de bois pour que le feu continue à souffler après dans nos délégations.
Merci Benoît Arnaud. Peut-être déjà un petit peu rappelez-vous votre rôle au sein du Secours catholique, et après nous dire pourquoi la Cité Saint-Pierre accueille les Speed Days.
Alors moi, je suis chargé de l'animation spirituelle au niveau national. Je suis partie d'une équipe nationale qui accompagne toutes les délégations en France et maisons aussi. Donc on a 3 maisons, la Cité Saint-Pierre, la maison d'Abraham à Jérusalem et le Cèdre qui est un accueil de jour en région parisienne. Donc j'accompagne tous ces lieux-là pour mettre en réseau et pour voir avec eux comment est-ce qu'on vit la vie spirituelle ensemble. Voilà, donc ça c'est, on est une équipe à ce niveau-là. Et les Speed Days à la Cité Saint-Pierre. La Cité Saint-Pierre est une maison commune au Secours catholique. C'est une maison qui a été fondée par notre fondateur Jean Rodin, il y a 80 ans maintenant, puisque on fête les 80 ans du Secours catholique. Et les 80 ans, alors pour Lourdes, on fête aussi les 80 ans du pèlerinage du retour, où il y avait 100 000 prisonniers de guerre qui sont revenus en le 8 septembre 46 ici à Lourdes. Date de la fondation du Secours catholique. La Cité Saint-Pierre aussi, c'est un côté très pratique. C'est que c'est un lieu où on peut accueillir 400 personnes avec des salles et autres et faire des grands séminaires pour le Secours catholique. Mais c'est un lieu qui a du sens. C'est un lieu qui est symbolique. Quand vous arrivez à Saint-Pierre, il y a paix, silence et paix. C'est un lieu où la charité n'a pas d'heure. C'est un lieu où le service par les bénévoles donne du sens et permet à des personnes de se relever. Nous, les Speed Days, on l'a voulu ici à Saint-Pierre parce qu'il fallait accueillir tout ce monde-là dans un lieu qui ait du sens. Marie est présente ici à la grotte aussi. Le sanctuaire nous a accueillis. On a prié à la grotte le lundi soir pour confier ces Speed Days. Et là, plein de personnes sont descendues, ont loupé des ateliers et librement, et tant mieux, pour pouvoir descendre à la grotte parce que quand on fait 5000 km, on va à la grotte. Donc la Cité Saint-Pierre est vraiment le lieu qui permet, ouais, on entend les cloches d'Algérie qui sont à la cité. La Cité Saint-Pierre permet vraiment aux périphéries de se retrouver ici et de vivre sereinement des temps où on va se rencontrer, partager en fraternité. Voilà.
Les gens viennent de très très loin. D'où viennent les personnes qui viennent du plus loin?
Alors le plus loin, alors on a les dom-toms, on a Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte. On a Mayotte qui est présente ici. On a des personnes, donc je disais du Liban, qui sont présents. Et puis en fait, les personnes les plus éloignées, celles qui viennent de plus loin, c'est tous nos acteurs du Secours catholique qui sont migrantes, qui sont présentes ici, qui viennent de différents pays, partout dans le monde. Après, c'est toute la France, hein, toute la France hexagone, hein, la Corse, l'île, le Nord, voilà, la Bretagne. J'ai pas cité tout le monde parce que il y a des gens qui vont être jaloux. Les Pyrénées, voilà, donc Pays de la Dour, donc Bayonne et autres, donc et Toulouse. Il y a toutes les régions qui sont là. Nous, on a préparé, on est une équipe de 40 personnes à peu près à avoir préparé les Speed Days. Et sur les 40 personnes, il y en a 30, je pense. Oui, c'est ça, 30 qui ont l'expérience de la précarité. Et ça fait un an qu'on le travaille. Un an qu'on se prépare et on a fait avec et à partir des plus pauvres, et on a fait des résidences artistiques ici, dans des monastères, dans différents monastères de la région sud-ouest, puisqu'on a préparé avec des groupes de partage de la parole de Dieu qui sont dans des délégations, et ensemble on va poser des questions sur quand vous étiez en galère, où est-ce que vous avez trouvé Dieu, ou comment Dieu vous a trouvé, l'Église, quel est votre rêve pour l'Église, et puis dans l'interreligieux, comment est-ce que vous vivez cela, comment est-ce que vous arrivez à vivre la prière ensemble, à la rencontre avec l'autre, voilà. Et donc tout ça, ça nous a alimenté sur l'ensemble. Et ils font partie pleinement de l'organisation. On présente ensemble, on vit ensemble, et voilà, c'est une belle énergie qu'il y a ici à Cité-Saint-Pierre.
Merci beaucoup Benoît Arnaud. On peut dire que le ciel est avec vous parce qu'il fait un temps superbe depuis ces quelques jours où le Speed Days a commencé. C'est vrai que quand on rentre à la Cité-Saint-Pierre, moi je suis touchée par cette paix qu'il y a dans ce lieu, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites ici. Merci Benoît Arnaud.
Merci à vous et aux auditeurs de Radio Présence. Merci beaucoup.
Voilà pour ce reportage réalisé par Laurent Soudemont, donc réalisé la semaine dernière à la cité Saint-Pierre de Lourdes à l'occasion donc de ces Speed Days. On va rester à Lourdes avec la maman de Carlo Acutis, Antonia Salzano, était de passage il y a quelques semaines à Lourdes, au sanctuaire de Lourdes. Son fils Carlo Acutis a été canonisé le 7 septembre 2025. On va écouter le témoignage donc de la maman de Carlo dans un instant au micro de Mathias Terrier.
Dans les rues de Calcutta, où l'on peut croiser tes pas, et les graines de l'amour semées sur tout ton parcours, tu as donné tant de joie et livré tant de combats. Autour et au fond de toi, en entendant cette voix, sois ma lumière, juste une prière, sois ma lumière, juste une prière. Tant de beauté en tes yeux, que tu reflètes de Dieu, c'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre. Il ride sur ton visage la force du témoignage, tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout. Donner de l'amour à tous ceux qui nous entourent, viens, sois ma lumière, juste une prière. Sois ma lumière, juste
sommes à lumière, Natacha Saint-Pierre à l'instant, exceptionnellement aujourd'hui pas d'info régionale. Retour de l'info tout à l'heure à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. Sur les pendules de Radio Présence, il est 12h30 comme tous les lundis, on retrouve Mathias Terrier et son émission De Passage à Lourdes avec son invité cette semaine, une invitée exceptionnelle.
Présence
De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une émission exceptionnelle puisque nous recevons la maman d'un saint. Antonia Salzano, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, de prendre ce temps pour venir nous parler de votre fils.
Oui, absolument.
Carlo Acutis.
Oui.
Canonisé le 7 septembre 2025. Et un merveilleux saint pour notre temps. Un témoin jeune qui marque et qui a un magnifique témoignage autour de sa foi, du service des autres, de sa dévotion à l'Eucharistie. C'est de tout ça dont nous allons parler avec vous. J'imagine, Madame Salzano, que votre vie a complètement changé ces derniers temps.
Absolument, mais dès quand il est mort, en effet, c'est commencé. Parce que le premier miracle, Carlo l'a fait le jour du funérail. Il y avait une femme avec un cancer qui devait commencer la chimiothérapie. Elle a prié Carlo et s'est guéri complètement. Et ça, c'était le premier miracle. Et lors de ce moment... Il a commencé toute une série de miracles. Chaque jour, nous recevons nouvelles de miracles, de conversions. Et vraiment, c'était une chose incroyable. Puis, j'ai rêvé Carlo, après 2 mois qu'il est mort. Il m'a dit, je serai béatifié et après canonisé. Et en effet, c'est vrai parce que c'est passé ça. Et...
Donc, nous allons raconter son histoire. Vous allez nous raconter son histoire. Auparavant, une autre question. Vous vivez à Assise? Il est lui aussi à Assise, puisque son corps, intact, fait l'objet de dévotion à Assise. Ça doit être quand même, pour la maman que vous êtes, très spécial à vivre.
Ah oui, parce qu'il est habillé comme un jeune d'aujourd'hui. Hein. Et sûrement, ça touche beaucoup les jeunes, surtout, hein, qu'ils voient quelqu'un comme eux. Carlo a vécu une sainteté, une vie normale, ordinaire, mais... Et il a ouvert la porte de son cœur à Dieu et sa vie normale, ordinaire, s'est devenue extraordinaire. Il a vécu la présence de Dieu dans toute sa vie. Et ça, c'est le message de Carlo. C'est possible la sainteté aujourd'hui aussi, parce que ce sont des temps difficiles, mais c'est possible de devenir sainte, même dans l'ordinarité d'une vie, en faisant tout en Jésus, par Jésus, avec Jésus, comme faisait Carlo.
Si on reprend le fil de son histoire, il est né en 1991, il est mort à l'âge de 15 ans. Quel enfant était-il, madame ?
Il était un enfant sûrement anticipateur, je dis, il courait avant le temps, parce que 3 mois, les premiers mots, 5 mois, il parlait, avec la foi aussi, il était vraiment extraordinaire, et dans toute sa vie, il était comme en accélération. Il avait. Et aussi avec la foi, il a fait sa première communion quand il avait 7 ans. Et il a écrit « Être toujours uni à Jésus ». Ça, c'est le programme de ma vie dans 7 jours. Et il a commencé à aller à la messe chaque jour, à faire l'adoration eucharistique chaque jour, lorsqu'il avait sa première communion. Mais ça n'empêche pas de vivre une vie normale, comme tous les jeunes. Et surtout, de s'impliquer aussi dans une vie de charité, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Surtout, il était catéchiste, mais il aidait les clochards dans la rue. Et il menait des sacs à couchage, il menait des repas. Et puis, il faisait de son volontariat avec les plus âgés, avec les jeunes, les jeunes qui avaient des problèmes de boulimie. Il a fait plusieurs des choses. Puis, il a aussi fait des choses qui sont en train de voyager tout le monde, comme la exhibition sur les miracles eucharistiques, que ce sont des signes que Dieu a donné où l'hostie s'est devenue chère, où il y avait des choses extraordinaires qui s'est passées pour démontrer que dans l'hostie consacrée, il y a la réelle présence de Jésus dans le monde. Et il a fait cette exhibition qui est en train de voyager tous les continents. Nous parlons de la Chine, des États-Unis, de tous les continents. Et beaucoup de gens s'est rapprochés à la fois grâce à cette exhibition. Et vraiment, je pense que ça, c'est un des œuvres les plus belles que Carlo a fait.
Donc vous nous dites qu'il allait très vite, il était éveillé à toutes les questions de la foi très jeune. Oui. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le geek de Jésus ou le cyber-apôtre ?
Parce qu'il était vraiment un génie de Internet. Il faisait, à 9 ans, il faisait la programmation en C++, Java, Ubuntu. Il a appris tout seul. Il avait une génialité. Je pense parce que nous avons un grand scientiste dans notre famille qui s'appelle Ruffini, la règle de Ruffini, mathématiques. Mais je ne sais pas si c'est ça, mais en toute manière, il faisait des choses incroyables. Et il a fait un programme de statistiques à mon mari, qui était un assureur pour faire vraiment très compliqué. Quand il avait 9 ans, pour dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé cette skill pour faire cette œuvre d'évangélisation. C'est pour ça que Pope Françoise l'appelait l'influenceur de Dieu, parce qu'il voulait annoncer la bonne nouvelle. Il voulait parler de l'Eucharistie, il voulait parler de toutes ces choses merveilleuses, de la Vierge Marie, il a parlé beaucoup de Lourdes, de Fatima, toutes les apparitions reconnues par l'Église, où la Vierge Marie a parlé et a dit des choses très importantes. Et Carlo disait qu'on doit écouter plus. Et alors, il voulait faire des choses pour aider les gens à avoir plus foi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le manque de foi.
Vous nous dites aussi qu'il a cherché la sanctification dans la vie quotidienne.
Oui.
Ça veut dire qu'il voulait vivre de la bonté, de la bienveillance vis-à-vis des autres. Il aimait son prochain presque naturellement, d'un élan du cœur.
Oui, mais Carlo, c'était quelqu'un qui, quand il rencontrait une personne pour la route, il ferait un sourire et le saluait, même s'il ne les connaissait pas. Il était extraordinaire dans ces façons. Parce qu'à Milan, les gens, c'est très pris de le travail. Ils ont toujours des faces sérieuses. Et même s'il te connaît, il passe comme ça. Pour
vous étiez à Milan à l'époque.
Oui,
hein,
oui, mais... oui. Et parce que nous habitons à Milan, hein, nous avons une maison à Assise, mais notre Carlo c'est un saint de l'église de Milan, hein.
Ouais.
Et vraiment Carlo c'était incroyable parce qu'il faisait des sourires. Pour lui, chaque personne était un monde, était importante. Et alors il aimait la gente, hein, ça c'était ça. Et il les montrait, il témoignait surtout sa union avec Dieu. On le sentait quand on était près de Carlo, on sentait cette présence de Dieu. Qu'il avait cette union spéciale. Il disait que si on n'est pas connecté avec Internet, nous sommes désespérés. Mais si nous ne prions pas, nous ne sommes pas connectés avec le ciel. Ça, c'est un problème.
Donc, il faisait montre de cette attention aux autres. Et c'était un jeune pétri de prière aussi. Il aimait la prière et en particulier, il a un lien très fort avec l'Eucharistie.
Oui, absolument, la messe quotidienne, l'adoration eucharistique quotidienne, les chapelets chaque jour, la lecture de la Sainte Écriture, mais aussi de faire des œuvres de charité, non? Charité qui c'est l'aide, comme je disais, aux clochards dans la route, parce que il faisait comme un caritas domestique, hein. Il a commencé à mener des repas, des sacs à couchage, parce que nous vivons dans les centres de Milan et malheureusement autour de notre quartier, il y a beaucoup, beaucoup de clochards dans la route. Alors il disait, j'ai une maison, j'ai l'amour de mes parents, cette personne, rien. Et alors il a commencé dans une façon pratique à aider cette personne. Et puis aussi spirituellement, il a fait beaucoup de choses, comme je disais, l'exhibition sur le miracle eucharistique, et il a fait les catéchistes, et aussi des œuvres comme par exemple aider les copains qui avaient plus de problèmes à l'école ou aider avec les computers. Il faisait des sites gratuitement. Il a fait aussi pour des paroisses, pour les jésuites, pour les volontariats des jésuites, pour les jeunes. Il a fait beaucoup de choses, mais naturellement la chose plus importante c'était cette chose qu'il a fait pour annoncer la foi, qui seulement dans les États-Unis, Carlo est testimonial du revival eucharistique. La conférence épiscopale des États-Unis l'a choisi comme testimonial parce que son exhibition est allé presque 2000 paroisses, et sont en tous 18 000 paroisses. Vous imaginez combien son œuvre est en train d'aider beaucoup de gens. Et alors, c'est vraiment son œuvre aussi spirituelle qu'il a fait. Hein.
Pour la maman que vous êtes, il devait déranger quand même avec cette, d'abord précoce, plein d'initiatives, génial. Donc, ça n'était pas très confortable quand même, la vie quotidienne.
Non, c'était vraiment normal. Il était très sympathique. Il aimait les sports, mais avec équilibre. Non, il n'était pas folle de le football ou tout ça. Il aimait tous, mais avec en balance. Hein.
Ah oui.
Et puis, il avait beaucoup d'amis. Il régulait, il faisait des films avec les chiens, parce qu'il était très bon aussi à utiliser tous les programmes, Final Cut Pro, toutes ces choses. Il faisait des petites animations avec ces programmes derniers, non? Mais il faisait rigoler tous les amis parce qu'il faisait l'histoire des chiennes et les chats qui se combattaient. Il faisait des choses. Il était très sympathique, mais au même temps, il avait cette foi qui c'était vraiment extraordinaire. Hein. Mais ça ne l'empêche pas d'être normal, un jeune normal de son temps. Il aimait aussi jouer à la PlayStation, par exemple. Non, mais il disait maximum, je vais jouer avec ça maximum 1 heure par semaine. Parce qu'il comprenait que c'était dangereux. Et quand il a reçu à 8 ans cette joue, il a dit maximum 1 heure par semaine. Il a maintenu ça pour dire comment il était balancé dans sa vie. Hein. C'est un modèle aussi pour dire à les jeunes d'utiliser ce moyen technologique, cette social, mais avec équilibre. Hein. Tout avec l'équilibre.
Avant de marquer une pause, je signale que vous avez écrit ce livre, Le secret de mon fils Carlo Acutis, avec un journaliste qui s'appelle Paolo Rodari. Et vous racontez toute cette vie. Hein. Nous marquons cette pause, madame, si vous voulez bien, et nous nous retrouvons juste après pour continuer ce dialogue avec vous. J'aimerais que vous nous disiez notamment son lien avec Lourdes. Ça sera intéressant que là-dessus nous ayons quelques échanges. À tout de suite.
Merci Mathias, et cette pause on l'embarque en musique avec cette artiste chrétienne qui s'appelle Claire Bouchadaï, juste après la suite de cette émission de Passage à Lourdes, sans oublier l'actualité qui sera de retour à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Très bon appétit à vous qui nous écoutez en région.
Le Seigneur m'a À Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui est l'auteur de ce livre, Antonia Salzano Acutis, Le secret de mon fils Carlo Acutis. Carlo Acutis a été canonisé le 7 septembre 2025. Et madame, vous nous faites l'honneur d'être l'invité de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
Pour nous parler de votre fils qui a eu une vie fulgurante, 15 années, durant laquelle il a marqué tous ceux qu'il a croisés. On l'appelle le cyberapôtre, le guide de Jésus, il avait du génie concernant toutes les questions digitales, vous nous le disiez. Et puis c'était d'abord un jeune qui aimait la prière, l'Eucharistie, et qui très vite a rayonné par sa foi et sa charité. Avait-il, Madame Salzano Acutis, un lien avec Lourdes ? Parce que vous êtes de passage à Lourdes, je vous pose cette question, évidemment. Quel était son lien avec
Il aimait beaucoup Lourdes parce qu'on est venu ici, à Pierre-la-Vierge-Marie. Il avait une grande dévotion pour Sainte Bernadette, pour l'humilité de Sainte Bernadette. Il se souvenait, il parlait toujours de quand la Vierge Marie a dit à Sainte Bernadette, je ne te promets pas de te faire heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, oui. Non? Et il voyait Lourdes comme vraiment un message, l'Immaculée Conception, non? Comme un message d'espérance pour nous, vraiment. Parce que la Vierge Marie nous dit, nous donne sa confiance, sa espérance qui aussi pour nous, non, nous attend quelque chose d'extraordinaire. Hein? Même si nous avons cette vie difficile, mais nous sommes appelés à devenir comme la Vierge Marie. Alors Carlo vraiment avait cet grand amour. Et puis il disait que l'eau, c'est vraiment importante parce qu'à travers cette eau, l'eau, et la Vierge Marie nous donne des grâces extraordinaires, des purifications, des transfigurations. Vraiment, c'est un don que la Vierge Marie nous donne. Et alors, vraiment, il aimait cet endroit, la beauté aussi des lieux, mais aussi l'atmosphère mystique qu'on se respire en Lourdes. C'est vraiment extraordinaire.
Vous allez confirmer ce qu'on m'a raconté, qu'il avait vu des images de Jean-Paul II à Lourdes en 2004. Lorsque Jean-Paul II vient en pèlerinage, il a vu ces images et ça lui a donné aussi lui-même, Carlo, l'envie de venir.
Oui, absolument, oui. Parce qu'il connaissait très bien Jean-Paul II et il avait une grande estime de cet pape, hein, un pape eucharistique, un pape extraordinaire, le pape de la Vierge Marie aussi.
Oui, un pape très marial aussi.
Oui, absolument.
Et donc vous l'avez accompagné, vous êtes venu ici à Lourdes.
Oui, nous sommes
venus
en pèlerinage et avec mon mari, ma grand-mère, ma mère, et il y avait aussi les petits chiens de Carlo. Qui était tellement petite qu'on est mené dans un sac. Il est venu aussi près de la grotte cachée dans la.
Oui.
Oui, je pense que c'était très, très particulière cette situation. C'était les chiens que Carlo avait voulu. C'était très petite. Alors il est venu en voyage avec nous.
Il l'avait caché dans son sac,
oui,
et il l'avait emmené à la grotte.
Oui, parce qu'il s'est sanctifié aussi les chiens, sûrement.
Et donc il a accompli tout ce pèlerinage. On va raconter aussi la mort fulgurante de votre fille,
oui.
Brutale.
Oui, mais la leucémie fulgurante, heureusement, la M3, aujourd'hui, on se peut curer, hein, on peut la curer.
On peut guérir de cette
leucémie. Oui, on peut guérir parce qu'ils ont découvert de nouvelles choses. J'ai prié beaucoup Carlo d'aider pour trouver la solution pour guérir de cette leucémie parce qu'avant, quand Carlo l'a eu, c'était une sentence de mort.
Et il a été emporté par la maladie en...
C'était cinq jours, Carlos. Sa maladie, c'est... Au premier moment, on s'est caché derrière un simple grippe. On pensait qu'il avait un grippe. C'est venu deux fois le docteur, parce qu'il avait mal à la gorge, quelque chose de très simple. Mais un matin, le troisième jour, il s'est réveillé, il ne pouvait pas, il n'avait pas la possibilité de se mouvre. Hein? Oui. Et alors on a décidé de l'emmener à l'hôpital. Et pendant la route, Carlo me dit, d'ici je ne vais pas sortir vivant, mais je te donnerai beaucoup de sang, de signes, hein? Avec calme, toujours avec les sourires.
Il vous a dit ça?
Et oui. Et avant de qui ont découvert qu'il avait la leucémie, il a dit un jour, quand il avait les grippes, il a dit, j'offre mes souffrances pour l'Église, pour le pape, pour ne faire pas le purgatoire, aller tout droit en paradis. Et on trouvait ça très étrange, ce mot, non? Mais en effet, il savait, comme s'il était inspiré, non? Et deux mois avant, il avait fait une vidéo où il dit, quand mon poids sera 70 kilos, je suis destiné à mourir. Et son poids était 70 kilos quand il est mort. Et c'est comme une annonce. Il regarde le ciel avec un sourire. Il n'avait pas peur de la mort. Il disait que la mort est le passage à la vraie vie. Qui a peur de la mort, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Parce que si vraiment on croit que la mort, c'est la rencontre avec Dieu, la chose la plus merveilleuse qu'on a, on ne peut pas avoir peur de la mort.
Mais tout de même, pour vous, pour les parents, ça a été un drame.
C'est un drame si on n'a pas la foi. Si on a la foi, on doit accepter la volonté de Dieu parce que nous savons que Dieu fait tout pour notre bien.
Mais on est séparé physiquement de son fils.
Oui, c'est mais c'est une séparation, pas une séparation, une vraie séparation, parce que la présence de notre chair, c'est toujours à côté de nous. Hein? Et c'est une présence, plus présence. Parce qu'ils nous voient toujours, ils sont toujours avec nous. C'est nous qui devons nous connecter avec eux, avec la prière, en vie eucharistique. C'est possible de l'écouter plus. Mais l'important, c'est de vivre cette vie unie à Jésus. Parce qu'en Jésus, nous écoutons aussi notre chair.
Aujourd'hui, vous-même, vous portez le message de Carlo. C'est devenu votre vocation de maman, de porter le message que lui-même fait rayonner.
Oui, absolument. Mais je pense que chaque mère a un fils spécial. Chaque fils est spécial, non? Chacun est appelé à devenir saint. Hein? Jésus aussi nous dit ça. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, je pense que chaque fils, pour sa maman et son papa, c'est spécial, non? Et moi, chaque mère, chaque père parle de leur fils, non, normalement. Alors, moi aussi, je suis appelée à parler d'un fils particulier que l'Église a choisi comme exemple. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont saintes, qui sont dans les chemins de la sainteté, peut-être qu'ils ne vont pas être canonisés publiquement, mais je suis confiante qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes merveilleuses, beaucoup de... Et Carlos, c'est un modèle, hein? Et alors, je veux dire que, oui, c'est ma mission de parler de Carlo, de parler de sa spiritualité, les choses qu'il a fait. Mais je veux dire un message à toutes les mamans que vous avez, votre fils sont spéciales aussi.
Donc, vous vous dites que Carlo était forcément rayonnant, mais que toutes les mamans doivent voir la richesse qu'elles ont.
Parce que ce sont des créatures de Dieu, ce sont spéciales. Chaque personne est spéciale. Et j'ai. Je pense que les mamans doivent faire venir, c'est comme un violon de Stradivari, non? Les très connus. Hein?
Oui.
S'il n'a pas le musicien qui est capable de jouer bien, on ne peut écouter le son.
Le violon peut...
Et les mamans sont comme les musiciens qui doivent faire... Hein? Et parce que la mission de chaque maman, c'est de faire venir, hein? D'aider leur fils.
Aujourd'hui, vous êtes très sollicité. Vous voyagez beaucoup, vous témoignez beaucoup. Vous êtes vous-même étonné de ça ou bien vous dites c'est ainsi?
Écoutez, moi, avec mon travail aussi, ma vie, j'ai voyagé, j'ai vécu dans plusieurs des villes, et j'ai parlé des langues. Et alors, ce n'est pas si difficile pour moi, parce que j'étais préparé, hein, parce que j'ai parlé les langues, j'ai voyagé, je connaissais. Mais je le fais avec plaisir parce que je pense que la spiritualité de Carlo, c'est une spiritualité qui aujourd'hui peut être suivie. C'est facile, c'est possible, la sainteté aussi aujourd'hui. Et on ne doit pas faire des choses incroyables. L'important, c'est d'ouvrir la porte de le cœur à Dieu et permettre à Dieu de faire les chefs d'œuvre qu'il veut faire avec notre vie. Le problème, c'est ouvrir cette porte, hein, et surtout avoir plus confiance dans l'Église, dans les sacrements, la prière, la Sainte Écriture, et chercher toujours, même si on n'a pas la foi, chercher. Parce que la recherche est un signe d'intelligence, et je suis sûre que si on cherche avec le cœur pur, avec Dieu, nous fait trouver quelque chose, sûrement.
Après Carlo, vous avez donné naissance à des jumeaux.
Ah oui, ça c'était un cadeau de Carlo, parce que après qu'il est mort, il est 2006, j'avais 39 ans, j'étais déjà âgée. Et avant, je ne me demandais pas pourquoi je n'ai pas eu autre fils. Non, parce que j'ai accepté la situation. Et je disais, mais je suis encore jeune, pourquoi n'essayez pas de comprendre s'il avait des problèmes? Apparemment, il n'y avait pas de problème, mais après 4 ans que j'essayais, j'avais déjà pensé d'adopter des fils dans d'autres pays. Hein. J'avais déjà fait toutes les pratiques. Et à nuit, je vais rêver Carlo qui me dit « Non, mais t'inquiète pas, tu deviendras nouvellement maman. » Et après, à moi, je suis restée enceinte de 2 jumeaux. Et la date le docteur avait écrit pour la naissance de ces jumeaux, c'était le 12 octobre, la date de la mort de Carlo. Après, ils sont nés un peu plus en anticipation. D'accord. Ils l'ont anticipé parce qu'en Italie, on fait comme ça avec les jumeaux. Mais la date, c'était la signature de la grâce de Carlo pour moi.
Merci beaucoup pour cette belle histoire que vous racontez avec tant de cœur. Je redis que le secret de mon fils Carlo Acutis, comment il est devenu saint, c'est le livre que je vous conseille à tout un chacun de vous saisir pour comprendre et pénétrer encore plus dans la vie de Carlo Acutis. Il y a aussi un prier 15 jours avec Carlo Acutis, paru chez Nouvelle Cité, et également, signé Jean-Baptiste Maillard, devenir saint avec Carlo Acutis, paru chez Parole et Prière. Donc 3 ouvrages, notamment, parmi tous ceux qui ont pu paraître. Il y a beaucoup de livres. Merci beaucoup, madame. Merci. On vous souhaite un bon séjour à Lourdes. Et à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier. All the leaves are brown.
California dreaming on such a winter's day.
à Figeac, 97.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Guerre contre l'Iran, Israël en première ligne. Son aviation a mené plusieurs bombardements encore aujourd'hui, aussi bien